On démarre.
Bonjour à tous, et c'est parti, qu'est-ce qu'il y a? On y va, je commence. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous. Je suis Alexandre Pluvinage et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être un peu polémique, à savoir, faudrait-il rendre la sécurité informatique obligatoire. Alors, vous allez me dire, oui, mais de quoi tu parles? J'aime bien faire le parallèle, et vous le savez, entre la sécurité informatique et la sécurité routière. Et quand la sécurité routière a été mise en place, c'est parce que c'était dangereux, que les gens pouvaient se blesser et blesser les autres. Mais quand on réfléchit bien aujourd'hui, la sécurité informatique, on n'en est pas tellement loin. C'est-à-dire que je peux perdre de l'argent. Il faut que je me protège. Mais alors oui, il y aura des sécurités. Les constructeurs vont mettre des sécurités sur la voiture, comme les banques ou les médias sociaux vont essayer de sécuriser les comptes, que ce soit les comptes bancaires ou les comptes en ligne. Mais l'utilisateur a aussi une responsabilité. L'utilisateur doit mettre sa ceinture de sécurité. Elle est dans la voiture, mais s'il ne l'utilise pas, c'est sa responsabilité. Alors, est-ce qu'on peut faire le parallèle jusque-là avec la sécurité informatique? On va voir ça tout de suite. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir trois experts dans le domaine. Le premier que vous connaissez déjà, qui est Emmanuel Niquez, celui que je me plais à appeler le couteau suisse de la sécurité, celui qui connaît quasiment toutes les facettes, puisqu'il est et psychologue, donc il connaît le côté humain, et IT, et expert en cybersécurité. Enfin, ce garçon a toute la palette, vous allez l'entendre. Il connaît plein de choses. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans le podcast Sten Meus. Sten Meus est CISO. Alors, qu'est-ce que c'est que CISO hein? C'est Chief Information Security Officer. En gros et simplement, il est responsable de la sécurité informatique pour une société qui offre des moyens de paiement à des entreprises en Belgique. Et Dani, je suis sûr que vous connaissez quelque part Dani, puisque Dani, d'abord, il est dans la presse en ce moment en Belgique, cette semaine. Dani, c'est mon frère jumeau, c'est-à-dire c'est celui qui fait le podcast, ce podcast-ci en néerlandais, qui s'appelle The Fraudeur, The Hacker et Nier. Et il est aussi expert en lutte anti-fraude et il fait de la sensibilisation dans une grande banque en Belgique. Donc il va pouvoir nous offrir aussi cette expérience-là dans le podcast. Bonjour messieurs, comment allez-vous?
Bonjour Alexandre.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Alexandre.
Alors, je vais commencer directement avec la première question, puis je vais la poser à Sten, au hasard, parce que tu es en haut dans l'écran. À ton avis, devrait-on rendre la sécurité informatique obligatoire et pourquoi? Alors, je ne te demande pas comment, on va en parler après, mais pourquoi devrait-on rendre aujourd'hui la sécurité informatique obligatoire à ton avis ou pourquoi pas? Peut-être on ne devrait pas le faire.
Aujourd'hui, il y a pas mal de moyens pour déjà mieux protéger tout le monde au niveau sécurité informatique. Des outils qui sont super performants, qui aident vraiment, qui sont entre-temps déjà devenus beaucoup plus faciles à utiliser, parce que dans le temps, c'était quand même difficile à utiliser certaines choses pour mieux se sécuriser. Donc, c'est devenu beaucoup plus facile. Je pense qu'on puisse faire plus. Pour motiver les gens à utiliser ces moyens de sécurité, d'aller jusqu'à une obligation, je trouve que c'est toujours mieux de mais c'est mon avis personnel, c'est de pouvoir faire comprendre à quelqu'un que c'est important et pourquoi on le fait. Plutôt que rendre quelque chose vraiment obligatoire. Mais voilà, ça c'est. Il y a des pour et des contre. Je pense que rendre les choses obligatoires, ça va avoir un résultat immédiat sur certaines choses. Mais d'autre côté, si on comprend pourquoi on fait quelque chose, je pense que l'effet est beaucoup plus grand que juste le rendre obligatoire.
Alors, je challenge ça et je vais directement rebondir sur ce que tu dis et aller voir Dani parce que Dani le sait, ça fait plus de 10 ans que les banques, pour parler d'elles, parce que ce sont les premiers à avoir vraiment investi là-dedans, sensibilisent leurs clients. Alors, certaines mieux que d'autres, on en est d'accord, mais ça fait plus de 10 ans que les clients des banques, donc en gros toute la population, puisque tout le monde a un compte bancaire aujourd'hui, et reçoit, de la communication, des formations, des vidéos, des textes et toutes sortes, parfois même des conférences. Mais on voit que ça ne change pas grand-chose dans ce cas-là. Dani, qu'est-ce que tu poses de ça? Comment est-ce que tu vois ça, toi?
Je ne sais pas si ça ne change pas grand-chose, mais j'aime bien la comparaison que tu as fait avec la sécurité routière parce que là aussi, on doit le couper en plusieurs morceaux. Donc il y a la sécurité de la route même, physiquement la route, on ne peut pas avoir des nids de poules sur la route parce que c'est super dangereux. Il y a des règles qui sont là, qui doivent être claires, simples à comprendre aussi, qui doivent être maintenues. Mais après, et donc il y a les constructeurs des voitures qui doivent aussi respecter certaines limitations. Et après, il y a l'utilisateur. Et je pense qu'on voit la même chose avec la sécurité informatique dans les entreprises. Oui, pour les entreprises, je pense que certaines règles, on est arrivé au point que ça doit être obligatoire, comme ça l'est déjà pour certains secteurs, comme tu l'as dit. Bon, les utilisateurs ont une responsabilité, oui, mais c'est quand même assez difficile de rendre certaines choses obligatoires. Des choses qui sont faciles à implémenter et qui améliorent l'utilisation, comme tu disais, un peu la ceinture de sécurité, l'authentification à multifacteurs, c'est quelque chose que les entreprises, les sites web pourraient implémenter et donc rendre obligatoire pour leurs utilisateurs. Et puis le dernier point, c'est l'utilisateur qui doit se former. Là, oui, pour la sécurité routière, on doit suivre les formations, il y a un examen. Je ne pense pas qu'on peut aller jusque-là pour chaque utilisateur. Maintenant, si on fait quand même la comparaison avec la sécurité routière, la première fois que je suis monté dans une voiture, j'avais peur. Je ne savais pas où regarder exactement. Il y avait tellement de trucs à faire attention dessus. Mais quand je vais en ligne, j'ai pas tout à fait ce sentiment. Et donc, je me sens tout de suite en sécurité. Ça, je ne sais pas très bien comment on doit le résoudre, mais une obligation difficile, parce que ça va créer la résistance aussi, est difficile à mettre en place.
Ok, effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, il y a quand même un truc qui me chagrine, moi, parce que on voit cette évolution dans le temps. On a vu que, bah, au départ, je faisais une bêtise, je cliquais sur le mauvais lien ou j'utilisais le même mot de passe partout. On va pas reparler de mot de passe, hein, si vous voulez nous entendre parler de mot de passe. Il y a l'épisode précédent avec Emmanuel, on a passé une heure à vous apprendre ça en long, en large et en travers. Mais quand même, si j'utilise un mot de passe faible et que j'ai pas, comme Daniel disait, un deuxième facteur d'identification, hein, comme un SMS ou une application. Aujourd'hui, on le voit, le compte Facebook peut se faire pirater. Il y a des gens qui se font pirater leur compte Facebook, malheureusement, tous les jours, mais ça ne me touche plus que moi. Je veux dire que de là, ils vont vendre des choses sur un marketplace qui sont fausses, et puis finalement, bah, c'est des gens qui sont dans mon entourage qui vont perdre de l'argent. Ils vont pouvoir dire, tiens, oh, tu sais quoi, j'ai trouvé un truc génial pour faire un peu d'argent, c'est pas mal, si tu veux en profiter, regarde là. Et puis, ils vont me mettre en contact avec des faux investissements, et mon entourage va perdre de l'argent. Mais quelque part, j'ai une responsabilité là-dessus. Alors évidemment, on ne parle pas. Je sais que le sujet, ce n'est pas la responsabilité de l'utilisateur, c'est est-ce qu'on doit rendre la sécurité informatique obligatoire, mais dans un sens, on n'est pas très loin. Et j'ai envie de me tourner vers Emmanuel, pas pour le truc de Facebook, on reviendra dessus tout à l'heure, mais toi qui as l'habitude, enfin qui connais bien et qui a beaucoup travaillé sur le changement de culture en entreprise, et surtout au niveau de la sécurité informatique, puisque un des domaines sur lesquels tu es très expert, c'est comment est-ce qu'on intègre la sécurité informatique dans la culture de l'entreprise. Alors je vais un peu te challenger parce que j'ai envie d'aller plus gros, plus large que l'entreprise. Comment est-ce que, à ton avis, on pourrait, ne serait-ce que commencer, à changer la culture au niveau d'un pays, d'une société complète?
C'est un peu compliqué, en effet, parce que tu as
Désolé, j'ai
beaucoup de
pas été sympa avec toi
culture
avec cela.
dans un pays, hein, et donc c'est vrai que c'est pas toujours qu'un changement de culture. Et on peut revenir sur cet exemple, justement, de la ceinture de sécurité. Moi, je pense, bah, comme on a tous à peu près le même âge, on a connu le moment où c'était pas absolument obligatoire. Et puis, il y a eu de plus en plus de campagnes où on nous disait, il faut
Désolé,
le
je
mettre.
t'interromps, mais j'étais encore à l'arrière à l'époque, hein, j'étais pas encore en train de
Oui,
copier.
mais oui, mais moi aussi, mais bon. Mais bon, voilà, à l'époque, à l'arrière, ce n'était pas obligatoire, quoi. Tu
Ah non,
pouvais.
on était quatre
Ouais.
garçons et il n'y en a aucun qui était attaché.
Voilà. Et puis, tu avais des campagnes sans arrêt. Et une des différences, je pense, entre la sécurité routière et la sécurité informatique, et justement, Dany l'a mentionné, je pense que pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus abstrait. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent imaginer l'effet de leur tête qui percute le pare-brise et les effets que ça va avoir sur leur santé, les effets du manque de prudence sur Internet, c'est beaucoup plus distant pour eux. Et donc, on n'a pas la même réaction viscérale par rapport à ce risque-là. Et c'est déjà souvent le premier pas que l'on doit faire en sécurité informatique par rapport à d'autres, c'est d'essayer de faire comprendre le risque lui-même, l'impact, et de lui donner un aspect un peu plus concret. Et donc oui, on peut changer au niveau d'une population avec de la communication, etc. Mais par exemple, avec la sécurité routière, pour les communications qui ont été faites sur le port de la ceinture, j'ai justement un peu étudié le parallèle entre les deux il y a quelques temps. On était arrivé au début juste avec la communication à 80%. Enfin, c'était la communication et des contrôles de police, des amendes. Enfin, il y avait un package, hein, c'était la carotte et le bâton, les deux étaient déjà là, et on n'avait que 82% des gens qui portaient la ceinture à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait changer le comportement des gens pour arriver au chiffre auquel on est maintenant, qui est à peu près de 97%? C'est le petit dans la voiture chaque fois qu'on ne met pas sa ceinture, qui énerve les gens et donc ils la mettent. Et avec le temps maintenant, c'est devenu une habitude. Et en effet, si on ne la met pas, de toute façon, on va commencer à se sentir un peu mal parce qu'il manque un truc. Ça a mis des années d'abord pour arriver à ce résultat-là. Ça a demandé des changements au niveau des fournisseurs. Enfin, dans ce cas-ci, c'est les fabricants de voitures. Mais
Constructeur de
si on
voiture, oui.
voulait le faire au niveau IT, il faudrait en effet que tous les fournisseurs. Et on n'a pas encore fait ça. On n'a pas eu la même pression au niveau légal et au niveau gouvernemental pour arriver à ça en informatique. Donc, on a probablement encore du chemin à faire. On peut revenir de toute façon à la même question que tu as posée au départ. Est-ce qu'on doit le rendre obligatoire? Je suis assez d'accord avec le fait qu'on ne peut peut-être pas obliger tout le monde à le faire, qu'il y a un peu de liberté à préserver. Mais en même temps, quelque part, ce qu'on essaie aussi parfois de faire, c'est protéger l'utilisateur contre lui-même. Et comme tu dis, il y a peut-être pas énormément de conséquences pour moi si tout d'un coup je me fais hacker mon compte Facebook ou autre chose, bien que je vais perdre mes liens et des trucs dans le genre. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles on peut avoir des problèmes. Si je me fais hacker mon compte sur un magasin en ligne, on peut commander des choses sur ma carte de banque, les faire livrer ailleurs, je perds de l'argent. Et ça arrive régulièrement. Et comme je le disais, la plupart des gens ne réalisent pas ça immédiatement. Et donc, quelque part, est-ce que c'est. Quelle est finalement la limite que l'on doit mettre entre protéger les gens, même contre eux-mêmes, un peu à leur insu et les ennuyer, et finalement préserver leur liberté? Et ça, c'est la politique.
Attends, parce que alors, je t'écoute bien là. T'es en train de me dire, il faudrait. Allez, t'es en train de me dire, non, c'est moi qui interprète ce que tu dis, pardon. Mais quand même, ce que moi j'entends, c'est il faudrait le rendre obligatoire le plus vite possible et commencer à bosser pour que ça fonctionne. Parce que tu dis, ça prend du temps.
Ça
Mais
prend
la ceinture
énormément
a
de temps,
été
bien sûr.
obligatoire assez vite avant que tout le monde la porte. Désolé, hein, je joue un peu l'avocat du diable là, mais.
Mais la première question, c'est une question enfin, réellement politique. Est-ce qu'il y a une volonté de le faire? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, le législateur qui est censé nous représenter va définir enfin, une règle disant on devrait avoir un minimum de connaissances et certains comportements pour pouvoir utiliser Internet, en fait, c'est pas juste notre téléphone, etc., c'est Internet en général.
Et c'est un sujet que j'aime bien parce que c'est vraiment les formations. On va carrément aller dessus tout de suite parce que je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et dès le plus jeune âge. Je veux dire, moi j'ai des enfants, c'est assez impressionnant comment ils ont cette impression de ouais, tout va bien quoi. Non, il n'y a pas de risque sur Internet. Ma fille, il y a quelques années, hein, cette histoire-là remonte un petit peu, mais je lui expliquais la sécurité sur les médias sociaux et principalement sur Instagram. Elle me dit, ouais, papa, mais ça va, tu sais, je connais, c'est bon, tu vois, genre, hein, ça suffit. Et puis, genre, la semaine d'après, elle me forward un truc sur Instagram en disant, oh, papa, 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 Nike va offrir 5 000 paires de baskets, de chaussures de basket. Elle fait du basket. Oh, j'en veux une, est-ce que je peux m'inscrire? Je dis, bah voilà. Bon, en clair, t'as pas bien compris. Mais, je vois Sten entendre, enfin, je sais aussi Sten. Mais justement, tiens, puisque je te vois sourire, je vais me tourner vers toi maintenant, parce que je sais que tu as travaillé là-dessus. Toi, tu as développé, hein, avec la Cybersecurity Coalition, tu as développé un module de formation pour les écoles, en fait, pour les enseignants, pour enseigner aux jeunes. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, parce que ça peut être très long sinon, mais comment est-ce qu'on arrive à enseigner à des jeunes, quand on est professeur, qui souvent sont un peu plus à l'aise en informatique que leurs profs? Comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui?
C'est une question très intéressante. Et tu parlais de très jeune âge, hein, parce que je pense que là, ça commence en fait. Hein, parce que là, la première fois que les enfants commencent à travailler avec les iPads, avec les iPhones, avec les tablettes, les ordinateurs, c'est à partir de 3 ans déjà.
Souvent, ouais.
Oui, et donc, mais activement, ils commencent à 6 ans, 8 ans, ils commencent à vraiment faire leur propre choix là-dedans. Et on a essayé, parce qu'il n'y a pas une solution là pour. On est très loin encore d'avoir quelque chose qui fonctionne pour tout le monde et qui va être faisable pour tout le monde à mettre en place. C'est-à-dire, et on a essayé quelque chose entre 8 et 12 ans. C'est un jeu. C'est vraiment un jeu qui parle aux jeunes et qui leur donne en fait quelques réflexes. Comme des réflexes que tu dois avoir quand tu te commences à te promener sur la route, sur la rue. C'est-à-dire, si tu traverses la route, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, voilà, et tu vraiment des réflexes de base. Il y a même les parcs pour les jeunes enfants, les parcs de simulation. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est quelque chose qui est utilisé dans le monde physique beaucoup pour apprendre aux plus de jeunes âges de vraiment comment se bouger dans le trafic. Et puis le jeu qui était fait, c'était vraiment pour un jeu très facile, mais avec beaucoup d'interactions pour, par exemple, des réflexes sur les mots de passe. Et pourquoi c'est important, la complexité. La taille et donc toutes ces choses-là, il y avait aussi partager des données, oui ou non. Si quelqu'un te pose une question et tu connais pas, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois être gentil et répondre ou est-ce que tu dois dire non, je ne te connais pas, donc j'ai le réflexe de bloquer ou peut-être même rapporter. Ce sont des choses qui sont dans ce jeu et qui, moi, je l'ai testé avec la plus jeune. Chez moi, et c'était vraiment. On voit directement, elle commençait à expliquer à sa grand-mère déjà certaines choses sur les mots de passe. Donc, on voit vraiment, c'est là où on doit commencer. Mais là, on arrive au plus grand problème, c'est que, un, il faut trouver des jeux qui parlent vraiment aux jeunes, à toutes les jeunes, et il faut avoir l'endroit où on peut vraiment un peu donner, offrir ça aux enfants. Et là, on a essayé de, via les écoles, via l'enseignement, de voir est-ce qu'on puisse intégrer quelque chose dans l'enseignement dès le plus jeune âge des enfants
Dans
et
les
vraiment
programmes, tu
de
veux dire,
prendre ça comme
directement dans les
dans les
programmes d'école.
programmes, vraiment dans les programmes. Et là, on voit très clair que on a un enseignement en Belgique qui est, on peut quand même être fier, même s'il y a eu dans les journaux quand même qu'il y a potentiellement des choses qui peuvent améliorer, mais quand même, mais il y a quand même un délai. On parlait de 8 ans quand on en parlait pour les programmes d'enseignement. Il y a un délai de 8 ans entre une nouvelle introduction de quelque chose, une nouvelle problématique ou un nouvel topic d'enseignement et vraiment la mise en place dans les écoles et pour mettre à disposition
C'est long.
et vraiment l'industrialiser dans les écoles. Mais il y a des initiatives qui sont prises par des écoles même, par des régions. Donc il y a des initiatives, mais vraiment industrialiser vraiment un topic à ce sujet-là, ça prend du temps. Et ce n'est pas uniquement une problématique avec la cybersécurité, il y a pas mal d'autres topics aussi qui sont urgents à les mettre en place, mais que ça prend vraiment du temps. Donc je pense que oui, la réponse pour répondre à ta question, oui, je pense que là, il y a vraiment une grande partie de la solution, c'est de former les jeunes ou même les enfants. Mais il y a l'aspect pratique, comment le faire et comment le faire et pouvoir suivre, parce que les évolutions, si tu as un jeu maintenant qui est vraiment très très bien, demain, ce jeu-là, ça peut être démodé et ça peut plus être relevant. Et donc, il faut pouvoir suivre. Et donc, c'est toute une industrie qui doit se mettre en place. Et cette industrie, est-ce qu'aujourd'hui, ça rapporte de l'argent à l'industrie ou ça coûte de l'argent? Et donc, et là, on revient sur si c'est une obligation, ça pourrait inciter toute une nouvelle industrie qui va investir là-dessus et qui va pouvoir suivre tous ces changements plus vite. Mais à nouveau, ça c'est le topic du jour. Et
Exact.
pour l'instant, moi je n'ai pas la réponse, mais donc je peux que constater que voilà, oui, ça pourrait avoir un bon impact. Et non, aujourd'hui, voilà, c'est encore très dur de mettre ça en place pour tout le monde.
Et je pense, si je peux
Ouais, vas-y.
intervenir là, c'est que tu l'as dit toi-même, Sten, c'est que quand on fait de nouveau la comparaison avec la sécurité routière, l'enfant, dès qu'il sait marcher et qu'il va se promener en rue, le parent lui montre qu'il faut regarder à gauche, à droite, le grand-parent montre
Juste.
qu'il faut faire ça. Ici, on a une autre problématique, c'est que les parents, les grands-parents ne connaissent pas. Peut-être. Donc, on doit aussi construire en même temps que les enfants, on doit construire la connaissance dans toutes les générations parce que on l'a, je ne vais pas dire oublié, mais c'était un blind spot quand Internet a grandi et est devenu aussi important dans nos vies. Et
Exact.
Vas-y,
si je
vas-y,
peux,
vas-y.
parce que c'est exactement, c'est ça ça c'est une étude qui a été faite aux Pays-Bas pour voir quel est l'impact si on va former des enfants. Entre 8 et 12 ans, quel est l'impact pour eux-mêmes, primaires, sur leur sécurité? Ça, c'était une chose. Et là, l'effet, c'est vraiment, c'est comme des réflexes. À cet âge-là, ça devient un réflexe. C'est plus que, ah oui, je dois réfléchir. Non, non, c'est vraiment un réflexe. Puis il y a le deuxième effet, c'est, ah oui, c'est intéressant, ce domaine. Et donc, vraiment, pour voir à quel niveau est-ce que ça va inciter ces enfants-là de plus tard d'aller dans ce secteur. Ça, c'était deuxième
Tout à
chose.
fait.
Troisième chose, ce qui était super intéressant aussi, c'était, vu le fait qu'on apprend aux enfants à cet âge-là, c'est de dire, OK, oui, je dois faire pour me sécuriser, mais aussi, apparemment, ça aide aussi à désadviser aux jeunes, aux enfants, de rentrer dans la
Ah,
criminalité
déconseiller, oui, c'est
online.
ça, déconseiller ou
De
rendre,
donc
oui, rendre le,
déconseiller
ouais.
ça, vraiment, vraiment, et apparemment, moi j'avais jamais pensé à ça, mais c'est quelque chose qui avait apparemment aussi un effet
OK.
à ce niveau-là. Et la dernière chose, c'est que l'effet de ces enfants de savoir ces bons réflexes, ils expliquent à leur grand-père et leur grand-mère. Parce que les parents, ils n'ont pas le temps, ils n'écoutent pas, ils ont d'autres choses à faire. Mais les grands-parents, ils écoutent et ils expliquaient en fait à leurs grands-parents. Donc ça a un net effet aussi pour les grands-parents.
Donc, je pense qu'on est d'accord sur une chose, il faut le plus vite possible rendre la cybersécurité, ou en tout cas l'enseignement de la sécurité dans les écoles, obligatoire. Ça n'a que des effets positifs et c'est pas très compliqué. Au moins là-dessus, je pense qu'on peut être à peu près d'accord. Tu le
Si je peux
disais.
juste ajouter un truc
Ah
là-dessus.
oui, vas-y.
On a justement cette impression que les enfants sont plus doués que nous en informatique. Et en fait, certaines études montrent que ce qu'on appelle la littératie informatique, c'est-à-dire la capacité de comprendre les ordinateurs, etc., diminue chez les jeunes par rapport à notre niveau à nous. Probablement parce qu'eux sont nés dedans. Et c'est vrai que moi, je me souviens de mon fils qui, à 2 ans et demi, s'était foutu devant la télé, avait allumé la télé alors que c'était encore un truc.
Mais
Enfin,
il
il fallait
soit
3 télécommandes. Et voilà, il avait réussi déjà à faire plein de trucs parce qu'il était né avec ça. Mais ce que je vois aussi, c'est que quand je lui demande d'éteindre l'écran, il ne sait pas si c'est l'écran, l'ordinateur ou le clavier qui doit éteindre parce que pour lui, c'est un tout et c'est tout à fait abstrait. Et donc, ils en sont arrivés à un point où ils utilisent ces trucs sans réfléchir, mais justement, parce qu'ils ne doivent pas réfléchir, ils n'ont pas dû construire une représentation un peu plus avancée du système. Et donc pour eux, Internet, c'est le téléphone, c'est un peu partout, c'est la télé. Mais il y a tellement de confusion qu'ils ne comprennent plus vraiment très très bien. Ils n'ont plus les connaissances que nous, on a dû acquérir parce on a grandi avec. Ça s'est construit progressivement et on a dû comprendre à un moment donné parce que tout n'était pas aussi facile à utiliser au départ. Maintenant, tout est relativement intuitif. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, quelque part, il manque de certaines compétences, justement, pour pouvoir aller plus loin. Et de nos jours, si vous ne maîtrisez pas Internet, il y a quand même peu de boulot que vous pouvez faire, hein. En tout cas, sans un minimum de
En tout cas, il y a une
maîtrise.
grosse partie qui n'est pas possible, oui.
Et même en tant que citoyen, parce que de plus en plus de choses se font en ligne, hein. Si vous n'avez pas It's Me de nos jours, ça devient compliqué de faire certains trucs avec votre administration, avec votre banque aussi. Et il y a des gens, en effet, il y a les grands-parents qui ont un peu du mal, on le sait, mais en fait, dans les jeunes, ils sont pas plus avancés que nos grands-parents, en fait, enfin, que leurs grands-parents. Et donc, rendre cela obligatoire, c'est aussi leur donner des outils pour l'avenir. Ce n'est pas uniquement quelque chose pour les protéger, c'est aussi pour leur permettre quelque part de pouvoir avoir un boulot décent et d'avancer. Alors ça sera peut-être plus tard, mais c'est un petit peu comme à l'université où les profs nous disaient il n'y a pas longtemps qu'un des problèmes, c'est qu'ils ne maîtrisaient pas toujours la langue française, qu'ils avaient des problèmes de logique aussi, et que donc ils devaient reprendre à l'université des enseignements qui devaient être faits normalement dans le secondaire. Ben, c'est un peu ça, c'est que tout ce qu'on ne fait pas maintenant devrait être fait plus tard, et finalement, ça va être dépendant d'autres choses.
Et je suis tout à fait d'accord. Et honnêtement, il y a un truc moi qui m'a toujours choqué, c'est le fait que, alors peut-être que dans le passé, ok, mais aujourd'hui, on n'intègre pas la sécurité par défaut dans les domaines qui sont enseignés. Je prends deux exemples. Les comptables aujourd'hui vont dans une école de comptabilité, prennent des cours de comptable et ils sortent de là, ils sont comptables. Ils sont bons, moins bons, suivant comment ils ont étudié, mais ils sont comptables et ils sont prêts pour rentrer dans une entreprise. À aucun moment, on leur a appris la fraude financière. C'est dommage parce que, d'abord, c'est une heure sur tout un cursus, donc c'est vrai que ça va révolutionner toute l'organisation de l'université ou de l'école qui a enseigné, mais surtout, c'est eux qui vont être en première ligne. C'est-à-dire qu'on le sait et on le voit. Enfin, les fraudes à la facture, il y en a tous les jours, dans tous les pays, dans toutes les entreprises. Les fraudes au CIO, le phishing, c'est quelque chose qui est devenu tellement courant aujourd'hui, mais sur le marché des gens, des jeunes qui ont une formation pour être des bons comptables, sauf qu'ils ne savent pas se protéger. Même chose avec l'informatique. On forme encore, la plupart des écoles aujourd'hui, des informaticiens et des codeurs, hein, je parle plus même des développeurs plus que des informaticiens, qui vont développer, qui vont faire des applications géniales. Parce qu'en plus aujourd'hui, il y a tout ce qui est UX, donc on peut voir comment est-ce que l'utilisateur va se comporter, comment il va aimer l'application. Enfin, c'est génial. Et elle n'est pas sécurisée. C'est-à-dire que tu la mets 10 minutes dans les mains d'un mec qui est un spécialiste en sécurité. Alors, on va prendre un white hacker, donc les gentils, il détruit l'application. C'est pas normal. C'est un peu comme dire, ah, oh, tu vas construire une maison, mais non, t'en fais pas la solidité, la résistance au séisme, la résistance au feu. Non, non, il faut juste qu'elle tienne, qu'on puisse fermer les portes et qu'on puisse dormir dedans. C'est pas logique. Et dans les domaines aujourd'hui, la sécurité informatique, comme ceux que je viens de citer, bah, c'est pas dedans. Et je trouve ça absolument pas normal qu'on doive l'enseigner à côté.
C'est dans l'enseignement même que tu veux dire, parce que
Ouais.
dans leurs entreprises, on voit de plus en plus, chez nous, on a un jeu pour les développeurs, justement pour les apprendre à apprendre les bons réflexes et faire les bonnes choses. Donc
Mais est-ce que
mais
c'est
c'est comme tu
normal?
dis, c'est vrai, c'est pas. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, le monde change et on essaye avec les développeurs, on essaye de construire ça. Essayer de le former d'une manière amusante aussi, hein, parce que les jeux pour les adultes, on peut dire, mais allez, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais c'est la manière la plus amusante pour beaucoup
Ah oui.
apprendre sans que ça devienne ennuyante. Mais les écoles, oui, la question est toujours, et combien est-ce qu'on peut pousser sur les écoles, hein? Moi, je trouve que c'est la balance. Je pense qu'ils ont déjà fait un effort sur la digitalisation. Et donc ça, il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises. Et pour moi, ça donne l'espoir, hein? Parce que ça commence avec la digitalisation. C'est comme Emmanuel le disait, c'est voilà, au moins qu'ils commencent à utiliser un ordinateur et pas uniquement une tablette. Et c'est déjà ça, hein, parce que c'est déjà un grand changement, utiliser un ordinateur versus une tablette et pouvoir utiliser les outils qui sont là. Ça et tout le programme que l'enseignement est en train de mettre en place pour la digitalisation dans l'enseignement, ça, je pense que ça donne beaucoup d'espoir. La question est plutôt, OK, comment est-ce qu'on va intégrer maintenant la sécurité dans toutes les formations qui vont venir? Il y a une autre chose que j'avais entendu parce qu'il y a un stage, un gars qui va faire un stage chez nous dans mon équipe de sécurité de OWEST, c'est l'université pour informatique à Cork. Si je ne me trompe pas.
À court trait, ouais.
Et là, ils vont changer un peu. Donc, dans toutes les formations de Turopasta Informatica, l'informatique,
Adapté,
les
ouais,
formations
plutôt.
d'informatique, la sécurité va être un élément de base qui va devoir être pris dans ces formations. Donc, ce n'est pas un choix, mais ça va être d'office dedans.
Mais ça, c'est bien.
Et ça, je trouve génial. Donc, je vois plein de choses. Je vois plein de choses qui donnent beaucoup d'espoir dans ce domaine-là.
Ouais.
Je pense que là, c'est... Oui, désolé d'interrompre, mais je pense que là, justement, on parle de... ou on touche au sujet des responsabilités. Parce que tu dis, les comptables n'ont pas ça dans leur formation. Les informaticiens, petit à petit, oui. Et je pense, derrière, bah, il y a les secteurs dans lesquels les informaticiens arrivent. C'est de plus en plus... Allez, c'est beaucoup le secteur financier, évidemment. Et donc là, il y a une forte demande de respecter les règles de sécurité. Mmh. Parce qu'aussi, le secteur financier a une responsabilité. Si on prend l'exemple d'un architecte, on va... Parce que tu disais toi-même...
Alors, attention, juste, je t'interromps deux secondes. On parle d'un architecte informatique, hein, parce que pour les gens qui nous écoutent, ce ne sont pas tous des gens qui décident d'une architecture informatique dans un réseau.
D'un vrai architecte, en fait. Parce que je pense que dans la formation d'un architecte d'un immeuble, lui, avoir des règles de sécurité à respecter.
Okay.
Alors qu'un comptable, actuellement, ce n'est pas dans sa formation. Pourquoi est-ce que l'architecte d'un immeuble a ça dans sa formation? Parce qu'il y a une responsabilité après, que si son bâtiment s'écroule, il va devoir se justifier. Et donc, oui, là, il y a un rôle pour le législateur de dire, tiens, pour tel et tel et tel secteur, il y a des obligations. Et donc, automatiquement, ça va venir dans ces formations spécifiques.
Okay.
Mais évidemment, il y a dès le plus jeune âge qu'il y a certaines informations qu'on doit donner. Hein. Mais là, ça va devenir de plus en plus spécialisé.
Mais c'est pas mal.
Stein disait tout à l'heure que, justement, quand tu apprends très tôt, c'est relativement facile pour les enfants d'apprendre à un très jeune âge et ça reste très longtemps. Moi, je prends un exemple. Alors, c'est peut-être spécial dans l'école de mes enfants, mais très tôt en primaire, ils ont eu des cours d'informatique aussi qui consistaient en gros à créer un utilisateur et un mot de passe. Mais moi, j'étais un peu choqué. D'abord, parce qu'on leur demandait de créer des mots de passe à 6 caractères déjà. Bon,
oui.
Et en plus, on leur demandait de le noter sur un bout de papier.
Oh oui.
Et là, voilà, on se dit, bon, ça commence mal, bien sûr.
Et ce sont les bons réflexes.
Ce sont les bons réflexes. Et un autre problème qu'on a eu, c'est que, alors c'est génial, l'école s'informatise, ils reçoivent des budgets, ils ont des tablettes, et on ne leur met pas un système de filtrage sur Internet. Et donc, bien sûr, arrive ce que doit arriver quand il y a ce genre de choses. Les enfants tombent sur des images pas du tout acceptables pour leur âge. Mmh. Et on a donc un problème. On se dit, ben voilà, c'est à ce moment-là qu'on devrait les former. Mmh. On devrait déjà commencer l'éducation un peu aux médias et ce genre de choses. Et on le fait, mais à moitié. Et c'est un peu ça, c'est qu'on forme un petit peu les développeurs aussi, mais à moitié. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu les engages, tu dois leur faire des jeux pour leur apprendre encore à faire de la sécurité. Alors, c'est vrai que la sécurité évolue en permanence, qu'il y a des trucs qui doivent... C'est un peu la formation continue, mais je pense qu'il y a des moments où on doit vraiment déjà récupérer un gros fossé entre les deux. Et quand on y pense, même si ça évolue beaucoup, les principes de base restent souvent les mêmes. Même en architecture, en sécurité, c'est finalement... On ne donne pas tous les droits par défaut. On ne donne aucun droit par défaut et on donne juste ceux dont on a besoin.
On ferme toutes les portes et on rouvre uniquement celles qui sont nécessaires.
Et ça, oui, le monde va évoluer, mais le principe va rester. Quoi. Ça va être, et c'est vrai que si on peut déjà leur inculquer ça et que ça reste une sorte de réflexe par défaut, mais pour plus tard, d'abord, ce sera beaucoup plus facile pour eux. Et puis surtout, pour plus tard, on se protège déjà contre toute une série de menaces. Qu'importe l'évolution qu'on va avoir, quoi. Et donc je suis un peu triste que ça ne se fasse pas mieux en primaire ou même en secondaire après.
Ouais. Donc il y a encore du travail en formation. Enfin, on a évoqué les écoles, hein. On a même passé pas mal de temps. On a finalement parlé des entreprises parce que oui, elles doivent. Pour certaines, elles ont des obligations. Ça dépend des secteurs, mais il y a certains secteurs qui ont des obligations. Et puis il y a aussi le fait que on n'a pas le choix. Comme Sten le disait, quand on engage un informaticien et que il sait faire des très belles applications et du code qui fonctionne, mais du tonnerre, mais que c'est blindé de fautes et donc on sait tout de suite à travers ce code pirater l'entreprise, les utilisateurs, il y a un problème. Je pense qu'on ne l'a pas évoqué, mais c'est un sujet que pas tout le monde connaît, parce que les banques sont aussi, et là on parle plus de fraude, mais elles sont aussi très impliquées. Et d'ailleurs, il y a une législation qui risque d'arriver, je pense que c'est en 2025, si je ne me trompe pas, au niveau européen, qui va rendre obligatoire, on parlait des obligations, mais qui va rendre obligatoire pour les banques dans toute l'Europe de former, enfin, d'augmenter, en fait, il y a plusieurs points, augmenter la connaissance sur la sécurité des moyens de paiement et donc la lutte antifraude pour leurs clients, les alerter, c'est le deuxième point, sur bah, y a un nouveau type de fraude. Donc sachez que ça arrive. Hein. Pour prendre un exemple tout bête, on en a parlé aussi dans ce podcast, hein, le phishing par code QR, ça reste du phishing, mais c'est nouveau, alors on explique ce que c'est et comment on se protège. Et puis la troisième chose qu'il faut expliquer à ses clients, c'est comment est-ce qu'on rapporte une fraude. Une fois que j'ai découvert un faux mail ou un mail de phishing ou que j'ai été victime, qu'est-ce que je fais? Bon, ils doivent tous savoir comment réagir justement pour pouvoir réagir vite. Il y a un autre volet sur en interne, c'est-à-dire que les banques vont devoir aussi former leurs employés justement, comme Sten le disait, hein, pour que le code soit propre, qu'il n'y ait pas de moyen de finalement voler de l'argent aux clients. Mais j'aimerais, c'était un peu pour finir le sujet, mais j'aimerais qu'on avance un tout petit peu parce qu'il y a un autre sujet qui m'intéresse, c'est le fait, il y a des choses qu'on pourrait rendre obligatoires assez facilement. On va laisser les formations de côté, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Si Facebook, demain, disait à tous ses utilisateurs, alors peut-être petit à petit, on ne va pas faire ça en un grand clash, mais quand même, disait, voilà, chers utilisateurs, vous avez 2 mois, 6 mois pour activer l'identification à 2 facteurs. Alors, c'est quoi? Bah, on a déjà un mot de passe, hein, c'est le premier facteur. Et puis, on va recevoir un SMS ou on va utiliser une application de sécurité comme Microsoft Authenticator ou celle de Google. Vous choisissez, mais c'est obligatoire. On l'a mis en place. Ils ont fait beaucoup de campagnes de promotion pour ça. Il n'y a pas que, hein. Apple l'a fait, Google l'a fait pour Gmail, mais tout le monde ne l'a pas mis en place. Et si on disait c'est ça ou dans 6 mois, bah, tu ne peux plus accéder à Facebook tant que tu ne l'as pas fait, bah, je pense que ça aiderait finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, à ce niveau-là. Moi, c'est vraiment un truc, je dis, c'est super facile à faire. Quel est le problème avec ça? Pourquoi ils ne le font pas, à votre avis?
L'accès par les utilisateurs. Hein. Tu sais que si tu veux attirer les gens, plus c'est compliqué, moins il y a de chances qu'ils arrivent. Mais en même temps, je trouve que maintenant, quand tu vois les techniques de sécurité, comme le 2FA, la simplicité que tu as installé ça sur ton téléphone, la disponibilité du système, je trouve que la balance ne justifie. Alors c'est vrai que, par exemple, si tu prends Facebook, ils vont dire ils n'ont pas de contraintes. Ils pensent qu'il n'y a pas trop de risques non plus, donc ils ne vont pas vraiment. Ils l'offrent parce qu'il y a des gens qui vont le demander, mais ils ne vont pas le forcer. Regarde le gouvernement maintenant. Bah, avant, tu avais ta carte d'identité électronique, maintenant tu as ITSMI en plus, tu as toujours des codes, etc. Mais c'est vrai qu'eux, il y a un besoin. Alors, il y a une contrainte qui sont probablement mis eux-mêmes, hein, mais qui est logique aussi, comme le font les banques. Mais c'est vrai que, par exemple, les banques, si on veut être un peu technique, il y a un moment donné, la BNB interdisait ce qu'on appelait les soft tokens. Hein, donc, il fallait absolument avoir le Digipass. Tu ne pouvais pas avoir un pseudo Digipass sur ton téléphone parce qu'ils pensaient que ce n'était pas assez sécurisé. Bon, maintenant, il y a ITSMI qui a été accepté. La technique a évolué aussi. Et c'est vrai que le problème, c'était que le token était très cher, pas seulement à l'achat, mais à distribuer. Le coût de distribution était très élevé, alors que le soft token, bah, tu l'installes, il faut un petit peu d'aide, peut-être un petit peu de support, mais en tout cas, c'était...
Je me permets d'interrompre, parce que juste pour être sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas les terminologies que tu utilises. Donc, le soft token, c'est simplement une application sur son téléphone. Le hard token, le token, c'était un digipass, un lecteur de carte, ce genre de choses qu'il fallait effectivement envoyer par la poste chez l'utilisateur.
C'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que ce qui se passe aussi maintenant, et c'est une des belles évolutions, c'est qu'on arrive à avoir des technologies qui sont plus en plus faciles à utiliser. Prends Apple, par exemple, ils l'intègrent dans leur téléphone, tu n'as quasiment rien à faire, tu reçois un truc. Les SMS fonctionnent bien aussi, et le taux de pénétration du smartphone, qui est quand même un des trucs les plus élevés, je crois qu'on est à 98% de la population qui a un smartphone, enfin dans la population active, hein, on parle, ça te permet, ou même un téléphone, je pense qu'on doit, un téléphone mobile, tu peux utiliser facilement le SMS comme... token, enfin comme second token. C'est pas parfait, on est bien d'accord, on l'utiliserait probablement pas dans le monde financier, dans des trucs plus sensibles, parce qu'il y a peut-être encore des problèmes là-dedans, quoique. Mais c'est là, il y a une facilité. Alors il y a un coût, mais le coût d'un SMS maintenant, c'est ridicule. Hein. Avant, ça te coûtait, je sais plus, 30 centimes le SMS. Maintenant, de toute façon, c'est limité chez quasiment tout le monde. Et nous, en tant que
société, ça ne l'utilise pas. Oui, et d'autant plus qu'on ne l'utilise pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut lui demander, je t'envoie un message avec un SMS, à chaque fois tu te connectes à partir d'une machine que je ne connais pas. Si tu t'es connecté avec ton PC à la maison et que je l'ai associé à ton compte comme machine sécurisée, tu n'as pas besoin à ce moment-là, à chaque fois, de redemander. Il y a différents niveaux. Tu peux dire à chaque fois, parce que ça doit être très sécurisé, ou non, cette machine, elle est trustée. D'ailleurs, ce que certains font, c'est disent, tu peux décider toi-même. Bah oui. Oh, cette machine-là, c'est mon ordinateur personnel à la maison, il est chez moi, hein, à l'intérieur, c'est fermé à clé. Je décide que tu peux te souvenir, hein, c'est souvent ça qui est marqué, hein, souvenez-vous de cet appareil et tu ne recevras pas ton token.
Tu n'auras pas ton SMS, par exemple. Vu hein, ces images où il y a une route avec une barrière et à côté, il y a une trace dans l'herbe parce que tout le monde, au lieu d'ouvrir la barrière, passe à côté. Bah, ça représente un principe de base, c'est que l'être humain va chercher la simplicité en permanence.
Mais c'est là où le sujet est intéressant. Est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire? Et c'est marrant parce qu'en ce moment, il se passe plein de choses au niveau européen. Il y a de très, très bonnes choses qui arrivent avec l'un, le DSA, le DMA, la législation. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah, allez voir dans la playlist de ce podcast parce qu'on en a parlé. Mais on a forcé les grands de l'Internet à faire un certain nombre de choses. C'est un peu dommage qu'on ne les ait pas forcés parce que si on l'avait fait, ils l'auraient fait. Augmenter la sécurité à l'entrée, à sécuriser mieux la porte de nos comptes en ligne, finalement.
Oui, et je pense que...
Attends, vas-y. Oui.
Non, vas-y, Stein.
Non, vas-y, si tu veux continuer, Emmanuel, désolé.
Mais juste le truc, quand eux, on les a forcés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplifié la technologie. C'est eux qui ont amené, justement, toutes ces améliorations parce qu'ils avaient les moyens. Alors qu'avant, c'était quelque chose qui était un peu rébarbatif. Et je pense que c'est un peu ça, maintenant. Si, c'est bien de former les gens, mais je pense qu'on doit essayer de les former au minimum, mais on doit leur demander le minimum possible aussi. C'est-à-dire que si on peut simplifier les choses, on doit le faire en amont. Moi, c'est toujours ce que je dis aussi en formation en entreprise, c'est avant d'embêter l'humain, faisons le maximum au niveau technique pour que ça soit simple, et après, on met chez eux.
Oui, parce que sinon, hein, ces entreprises, ils vont perdre des clients. Ils vont perdre des clients. S'ils vont rendre ça obligatoire, eux, ils vont perdre des clients. Et donc, une entreprise qui offre un service similaire, qui n'est pas soumise à cette même obligation, va prendre tous les clients parce que les gens vont suivre le chemin le plus facile.
Tiens,
et donc ça, c'est quelque chose... Moi, je trouve que la régulation en Europe, au moins, c'est un peu uniformisé. Mais si tu as en Amérique, il y a une autre régulation qui est beaucoup plus libre. Et là, on peut le passer. Donc, je pense que ça, c'est un peu... et je pense que l'Europe aide de faire de plus en plus en disant, si tu offres des services en dehors l'Europe, même si tu es une entreprise qui est d'origine américaine, ils sont quand même obligés à suivre les règles européennes. Et ça, je trouve, ça, c'est quelque chose qui aide à protéger les citoyens de l'Europe par rapport à ça. Mais voilà, il faut... Voilà, la facilité, pour moi, c'est clé. Et ces entreprises, ils ont peur de perdre des clients parce que c'est devenu beaucoup plus facile, mais c'est pas encore... Quand moi, j'explique, parce que ça fait combien de temps? Quand moi, j'explique ça... Oui, ça va avec 80% des gens, je sais l'expliquer avec des mots très simples, avec en expliquant, en l'installant pour eux, 80% des gens, ça va, ça passe sans problème. Mais il y a 20% des gens qui disent, non, je veux pas, je comprends pas moi-même, donc je veux pas, parce que je comprends pas ce système, et ça, en fait, en le mettant, parce que j'offre même de le faire pour eux, ils disent, non, je veux pas, parce que ça veut dire que moi, j'ai pas, moi-même, sous contrôle, l'accès, et parce que je ne comprends pas. Donc, s'il y a un problème, je suis dépendant de toi pour pouvoir l'expliquer. Et donc, c'est une résistance pour dire non, je ne veux même pas le faire, même si je comprends qu'il y a un bénéfice au niveau sécurité, c'est qu'eux, ils voient ça comme une perte de contrôle parce qu'ils ne savent pas. Quand il y a un problème, peut-être un jour avec, ils ne savent pas le résoudre eux-mêmes donc ils sont coincés et donc ils ne veulent pas.
C'est une perception et je la comprends. J'étais il y a 2 semaines, je donnais une formation à des gens qui sont retraités et j'avais exactement ça. Et c'est vrai que le fait de ne pas savoir si ou de ne pas comprendre, ça leur fait peur. Alors que finalement, si tu prends les deux, c'est plus simple. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis et je vais quand même laisser plutôt Dany réagir là-dessus parce que ça m'intéresse aussi. On a des exemples du fait que, bon, d'abord, je ne suis pas d'accord que les gens vont quitter Facebook si Facebook le rend obligatoire parce qu'il n'y a pas réellement d'alternative. Mes amis sont là. Si moi, je vais ailleurs, et on l'a tous vu, enfin, il y a Thread qui est arrivé, ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce que tout le monde est sur Twitter. Il va falloir du temps et que, bon, on va parler de lui pour une première fois dans le podcast qu'Elon Musk en fasse encore beaucoup plus pour que les gens quittent Twitter, mais les gens restent dans leurs habitudes. Mais on a deux exemples Et je veux demander à Dany, parce que justement, c'est le secteur bancaire pour une partie. On a deux exemples où on a forcé les gens. On a rendu obligatoire une sécurité. Et je n'ai pas dit que ça a été facile. Ça a même parfois été compliqué. Mais ça a marché. Le premier, bah, il est un peu ancien. Hein, c'est quand les banques ont installé alors, d'abord les Digipass. Et puis ensuite, ils ont augmenté la sécurité. Ils ont lancé le lecteur de carte avec la carte comme sécurité pour se connecter à son PC banking. C'était un grand changement. Et il y a eu de la résistance, mais tout le monde y est arrivé. Le deuxième, bah, c'était pendant le Covid. Tout le monde a dû installer It's Me pour avoir son Covid Safety Kit, sinon tu ne pouvais pas sortir. Bah, ils l'ont fait. Et là, la sécurité, elle a été rendue obligatoire.
C'est vrai, mais il faut, oui, le premier exemple est pas mal, bien qu'on ne va pas parler des soucis de phishing avec lecteur de cartes, peut-être, mais
It's Me, on parlait du fait de rendre obligatoire de sécurité et de l'adoption par le public.
It's Me, ce n'était pas devenu obligatoire, mais c'était le plus facile pour avoir son ticket COVID safe. Et donc, beaucoup de gens l'ont utilisé, ont installé, n'ont pas tous, malheureusement, compris qu'ils pouvaient aussi l'utiliser pour leur banque, parce que c'était juste pour le ticket COVID safe. Et donc, mais effectivement, une obligation a aidé à rendre It's Me plus, plus connu. Maintenant, j'aimerais bien quand même réagir sur deux points de ce que Stan a dit. Effectivement, le premier, est-ce que les gens vont quitter la plateforme? C'est un souci de ces plateformes-là. Mais ce qu'il y a aussi, je pense qu'ils ont été négativement dans la presse, beaucoup plus souvent avec le contenu qu'ils ont mis. Et donc là aussi, la législation européenne qui arrive, c'est sur le contenu. Ce que ces plateformes n'ont pas l'air de comprendre, ou ne pas vouloir comprendre peut-être, c'est que comme il y a des utilisateurs qui n'ont pas d'MFA, leur compte est plus facilement piraté et le contenu illicite est publié à travers ces comptes-là. Donc, en rendant l'identification à multifacteur obligatoire, ils vont peut-être déjà résoudre une partie de ce problème-là. Maintenant, bon, le contenu, ça c'est un autre sujet qu'on va peut-être aborder plus tard. Mais donc, la facilité d'utilisation et la facilité d'expliquer, quelque part, je suis d'accord avec ce que Stan dit, c'est que quand on arrive ou quand on n'arrive pas à expliquer à quelqu'un comment ça fonctionne et cette personne va l'utiliser, ils vont mal l'utiliser. Et donc, ils vont quand même être à risque de fournir tout à quelqu'un qui essaie de les manipuler. Il y a du pour et du contre, et donc c'est mieux d'utiliser MFA, c'est mieux de le comprendre, évidemment. Ouais. Mais quelqu'un qui ne comprend pas, c'est aussi un danger pour lui-même. Donc, on doit trouver le moyen d'expliquer à tout le monde, ça, avant de rendre quelque chose de très obligatoire ou trop vite obligatoire.
Je suis un peu pas tout à fait d'accord dans le sens où tu es en train de me dire que quelqu'un qui utiliserait mal MFA est plus en danger ou plus dangereux que quelqu'un qui ne l'a pas. Et là, je ne suis pas d'accord.
Il sera peut-être moins
protégé que quelqu'un qui comprend comment ça marche. Et là, je te suis, mais quand même, ça reste une amélioration.
Juste un truc auquel je viens de penser, parce qu'on dit Facebook, finalement, c'est pas très, très grave. Regardez le nombre de sites sur lesquels vous pouvez vous loguer en utilisant votre login Facebook aussi. C'est-à-dire qu'il sert de single sign-on pour pas mal d'autres trucs. Et donc,
rien que ça.
En fait, on voit le premier risque, mais il y en a un deuxième derrière. Alors, bien sûr, tout le monde ne le fait pas, mais pour ceux qui l'ont fait, ça peut être catastrophique dans certains cas.
C'est clair. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que moi, j'utilise, alors pas celui de Facebook, j'utilise celui de Google et celui d'Apple, mais ils sont super sécurisés avec des mots de passe super longs un second facteur. Donc, j'ai sécurisé la première porte et si après, je la déplace ailleurs, elle reste aussi sécurisée.
C'est comme
sécurisée.
Le même mot de passe, un bon mot de passe, voilà. Mais pour tous les sites, le même, en fait. Voilà. Ouais, c'est un peu ce même...
C'est un des dangers. Hein. Mais je pensais juste à un petit exemple, parce qu'on parlait de cette simplicité. Vous avez peut-être connu, dans les années 80-90, sur les voitures, il y avait ce qu'on appelait les alarmes VV3. Il fallait mettre un clignotant, donner un coup de klaxon
et les armes.
C'était un truc extrêmement compliqué. C'était obligatoire à cause des assurances, mais personne n'aimait ça et c'était un peu bloquant. Regardez comment on a évolué maintenant dans le monde des trucs. Avant, il fallait avoir sa clé, mettre le truc, faire l'alarme VV3. Puis tout d'un coup, il y a les télécommandes, ça pouvait déverrouiller. Et puis maintenant, vous avez votre carte dans votre poche, vous arrivez, c'est à peine si la porte ne s'ouvre pas. Et automatiquement, vous êtes reconnu et votre voiture démarre et on ne sait quasiment plus les voler parce qu'il y a des systèmes cryptographiques intégrés. Enfin, c'est génial. Mais surtout, pour l'utilisateur, on est passé de deux contraintes à plus de contraintes du tout, quoi.
Et je pense plus facile.
Voilà, c'est beaucoup plus facile. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a une adoption qui est géniale. Mm-hmm. C'est qu'on a réussi à simplifier à un point où c'est même plus facile qu'avant. Donc, la sécurité est devenue quelque chose qui facilite
les choses. Mais il y a un incentive important pour les vendeurs de voitures. Parce qu'ils savent qu'il y avait des voitures qui étaient géniales, mais personne ne les achetait encore parce que c'était impossible de les assurer.
Oui.
Ou beaucoup trop cher pour les assurer. Et donc, ils ne vendaient plus la voiture. Même si la voiture était géniale, elle était trop volée. Et donc, vu le fait qu'elle était trop volée, les gens ne pouvaient plus l'acheter. Donc, il y avait... En fait, les constructeurs de voitures, ils ont compris que si leur voiture, au niveau sécurité et de vol, n'était pas bien, ça veut dire que les primes, ça coûtait trop cher, même si la voiture était bonne, ça coûtait trop cher, et donc ça pose un problème pour les gens, pour les acheter. Et donc c'est quelque chose, ça a motivé, je pense, les constructeurs à faire des choses qui sont super faciles, mais quand même bien pour la sécurité. Donc c'est
alors...
l'incentive commercial
Mais alors tu es en train, parce que là, carrément, tu es en train de dire, si demain, on forçait les plateformes, par exemple, celle-là, prenons ça, les YouTube, les Apple, etc., à mettre en place. Je vais juste prendre le second facteur, ce qui est déjà un énorme pas en sécurité. Ils vont finir par développer des moyens qui sont plus simples pour l'utilisateur, mais tout en étant plus sûrs. Donc finalement, c'est un peu un élément pour dire, mais
il faut leur mettre une contrainte quelque part.
Forçons-les. Parce que rendre obligatoire, et je suis d'accord, le sujet était un petit peu clickbait, et est-ce qu'on doit rendre obligatoire tout et que tout le monde doit... Parce qu'on va parler encore... On va aller vite, parce qu'on va dépasser l'heure de podcast si on continue, mais on va parler de sanctions. Mais c'est vrai, on ne peut pas rendre tout obligatoire, sauf certaines choses. Et on peut commencer à augmenter. Le premier qui devrait être obligatoire, c'est les plateformes. Comme les banques d'ailleurs, hein, parce que les banques n'ont pas le choix aujourd'hui. Hein. Les banques et les services financiers, il y a des lois qui les obligent à offrir, enfin, à mettre en place en fait... un minimum de sécurité qui est en fait très 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 haut, hein, parce qu'en fait finalement c'est déjà le maximum dans tout le reste du monde, ils sont déjà au-dessus. Ben alors faisons le reste, faisons ça aussi avec les autres plateformes. Mais on va parler sur un sujet qui est, on va aller plus vite parce que je pense que là ben, ça va partir un peu dans tous les sens, mais les sanctions, parce qu'à partir du moment où tu rends obligatoire pour que ça marche, on l'a vu, on a demandé aux gens de mettre leur ceinture de sécurité, on a dû mettre un policier sur le bord de la route pour regarder s'il le faisait. Alors, on ne va pas pouvoir mettre un policier sur Internet, enfin, quoique technologiquement, c'est peut-être possible. Je ne suis pas du tout pour les sanctions financières, bien que, je le disais tout à l'heure, si à cause de moi, à cause de mon comportement non sécurisé, alors que finalement, je sais que je devrais faire mieux, parce qu'il n'y a personne qui va dire « Ah non, je ne savais pas qu'un mot de passe réutilisé, un mot de passe de 4 caractères, ce n'était pas aucun averti, ce n'était pas sécurisé. » Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu... quasiment, hein, je vais pas dire 100%, mais c'est quasiment tout le monde sait que ces mots de passe sont pas sûrs, mais ils le font quand même. On sait pourquoi, on en a parlé dans le précédent numéro avec Emmanuel. Mais donc si je sais que je prends un risque, si je sais que ce risque peut causer des pertes financières pour mon entourage, est-ce que je dois les rembourser? Là, je vais être... Parce qu'une sanction, il y en a une. By the way, une sanction, il y en a déjà une. Et c'est Dany qui en parlait tout à l'heure. Quand je me fais pirater mon compte Facebook et que, évidemment, ils l'utilisent pour promouvoir du matériel qui est illégal, je me fais fermer mon compte. Et dans la quasi-majorité des cas, il est impossible de le retrouver. Donc, je perds l'accès à mon compte. Je perds tout mon historique. Je perds tous les liens vers mes amis. Je dois recommencer à zéro. Et une sanction, elle existe, cette sanction. Elle n'a pas été pensée comme une sanction, mais elle existe. Et Facebook dit, OK, ce compte fait n'importe quoi, on le ferme et c'est terminé. Et il est quasiment impossible de le faire réouvrir. C'est très, 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 très rare. Mais est-ce que, quelque part, d'autres sanctions? Là, je vous cherche, hein, parce que je sais, vous êtes dit, non, il faut pas exagérer, mais quand même, je lance le sujet.
Je pense qu'il va y avoir un problème, c'est que si tu mets des sanctions, il faut des critères pour définir quand est-ce que tu vas être sanctionné ou non. Et alors là, tu as le problème, c'est obligation de moyens ou obligation de résultat. Parce que obligation de moyens, ils vont faire quoi? Ils vont nous mettre des... On fait un peu comme dans certaines entreprises où c'est mal géré. On va dire, ah, voici 5 formations, vous êtes obligé de les suivre. Et tu checkes la box, et voilà.
Oui,
moi, j'ai
ça.
Mis les formations
clic,
en ligne.
Clic,
on
clic,
sait
clic,
que ça ne sert à rien. Tu as oublié après 3 minutes. Obligation de résultat, tu vas dire, oui, mais je suis pas... il faut aussi qu'ils le fassent. Comment est-ce que je force les gens? Donc, tu vois, on va se retrouver dans une situation où bien c'est frustrant parce qu'ils vont être pénalisés pour des trucs sur lesquels ils n'ont pas le contrôle, ou bien on va leur donner le moyen de ne pas être pénalisés, mais sans rien faire d'efficace. Donc, c'est un peu compliqué, je pense, à ce niveau-là.
Je suis d'accord. Sten?
Moi, je suis complètement contre. C'est pas parce que, allez, moi, je roule en moto. Je sais que c'est plus sécurisé de rouler en voiture. Je sais ça, mais il y a, allez, je suis désolé. Donc, il faut quand même laisser un peu, laisser l'être humain rester être humain. Il faut juste, je pense, trouver, et je pense que là, je suis 100% d'accord. Si on pousse un tout petit peu, et obligations, régulations ou d'autres, pousse un tout petit peu. Les constructeurs, les entreprises, les mécanismes de, allez, tout ce qui est pour. Je pense que ça, c'est bien. Parce que là, on pousse un peu. Comment est-ce qu'on puisse quand même donner le plaisir d'utilisation ou la facilité d'utilisation, mais quand même en augmentant en même temps la facilité pour l'utilisateur. C'est comme ça qu'il faut, et la sécurité de l'utilisateur. C'est comme ça un peu, je pense. Mais voilà, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais de donner des sanctions ah oui, je suis d'accord. Si on enlève d'autres sanctions aussi, parce que ça, on est bon, hein, on rajoute des sanctions, mais enlever des sanctions, ça, on n'est pas bon. Donc, je trouve que c'est un peu voilà. Pour moi, c'est très philosophique. Je préfère faire ça quand on boit une bière quelque part d'autre.
Ok, on
Je
ira boire une
pense
bière alors.
qu'il y a quand même, donc comme Emmanuel l'évoquait bien, c'est la punition, elle doit servir à quelque chose. Donc la punition, la personne doit comprendre ce qu'il a mal fait et avoir l'occasion de s'améliorer. Hein. Donc ça, je pense que c'est l'essentiel d'une sanction ou d'une punition. De l'autre côté, il faut quand même penser à la victime aussi. Et là, je ne suis pas d'accord avec Sten, ou pas complètement en tout cas, parce que on ne peut pas sanctionner tout le monde, ça c'est clair. On ne peut pas dire, tiens, sur ton Facebook, il y a eu du contenu et ton ami a perdu 10 000 euros, donc tu dois lui payer 10 000 euros, ça ne va pas marcher. Maintenant, quand on regarde la législation pour les banques, on le connaît très bien, c'est que beaucoup de responsabilité est mise du côté des banques et beaucoup de lois et de règles sont là pour rembourser des personnes qui ont quelque part fait une erreur. Et donc là, il faut dire que la banque n'est pas le seul intervenant dans la chaîne complète des criminalités. On parle des médias sociaux, hein, donc un post qui va vers du contenu illicite ou quelque part, on pourrait dire, tiens, ils ont leur part de responsabilité, ils pourraient payer une partie des dégâts. On peut aller très très loin là-dedans parce qu'il y a tellement d'intervenants. Mais juste pour la petite anecdote, hier, je poste sur Instagram, donc quand même le groupe Meta de Facebook aussi, je poste une de mes vidéos du fraudeur là, acquérez-vous en néerlandais. Et pendant le upload, je reçois une pub sponsorisée avec un mec qui habite sur une île exotique quelque part parce qu'il est crypto trader. Voilà, donc c'est
On est
pas
d'accord.
normal que je suis confronté à ça parce que comme ça on démarre l'acte criminel.
C'est marrant. Il m'est arrivé exactement la même chose, mais sur YouTube, où je mets ma vidéo, et puis quand elle est passée, je la regarde. C'était un short, je swipe juste une, et je tombe sur quoi? Soi-disant Elon Musk qui a inventé une méthode révolutionnaire pour faire de l'argent. Oh mon Dieu! Et effectivement. Ok, bah écoutez, voilà, on l'a fait, on a dépassé l'heure de podcast. Je propose qu'on va résumer un tout petit peu. Donc effectivement, rendre obligatoire, je pense qu'il y a des niveaux. On ne va pas tout rendre obligatoire, mais il y a des choses qu'on pourrait rendre obligatoires. On a identifié bah, les écoles, effectivement, implémenter ça dans les programmes scolaires. Et c'est vrai que bon, Sten a déjà commencé à travailler dessus avec son équipe à la coalition pour justement commencer à mettre la sécurité informatique dans les écoles. Mais il y a encore du travail et il faut pouvoir suivre et mettre à jour, ça il l'a dit. Les entreprises et les banques le font, et on l'a vu, les banques vont devoir faire mieux, encore plus en tout cas, quand la nouvelle législation européenne sur les paiements va arriver peut-être en 2025. Mais il y a clairement aujourd'hui un manque de responsabilisation au niveau des plateformes en ligne pour forcer un certain nombre de sécurité. On l'a vu, hein, les constructeurs automobiles ont été obligés d'implémenter un certain nombre de sécurité et après, il va falloir les forcer. Aujourd'hui, il y a eu des implémentations dans les médias sociaux de certaines sécurités. Elles ne sont pas encore obligatoires et je pense que c'est dommage que ben, on n'en soit pas là encore aujourd'hui. Et non, effectivement, sanctionner ne va pas servir à grand-chose. Je pense qu'il faut inciter. Je suis surtout plus là pour inciter et aider et soutenir pour que, bah, pour que tout le monde fasse un petit peu mieux. Il y a encore beaucoup de travail, donc c'est bien parce que ce podcast a encore a encore beaucoup de vie. Et d'ailleurs, toute cette discussion m'a donné l'idée d'un prochain numéro, où vous êtes bienvenue si vous voulez, où on va pouvoir parler effectivement de toute la chaîne de la fraude en ligne et voir qu'est-ce qu'on peut faire à tous les niveaux. Parce que, bah oui, il y a les fraudeurs, il y a les telcos, il y a les chaînes, il y a les médias sociaux, il y a tout le monde qui est là. Et finalement, aujourd'hui, on pourrait essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut distribuer encore mieux la responsabilité et donc la protection à tous les niveaux. En tout cas, je vous remercie à tous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter avant qu'on arrête l'enregistrement. Sinon, je vous souhaite à tous les trois une très belle journée, une très belle année. On est encore en janvier, je peux encore le faire. Prenez soin de vous. Au revoir, messieurs.
Prenez soin de vous. Salut.
Au revoir, Alexandre.
Merci.